Bonne chance. Si de tout pays êtes venu nous rendre visite, ouvrez votre cœur au spectacle que nous vous présentons. Hein, ça, cela ne se laisse pas mettre en scène. Aussi, pour bien comprendre, monsieur Vincent, vous prendrez votre âme des dimanches, cette âme qui sort de la nuit de chaque semaine et pendant une heure ou deux s'accroche aux étoiles divines. Les saints ne mourront pas. Vincent de Paul, né à Pouille dans les Landes, doit avoir aujourd'hui, en 1962, 380 ans. Je dis bien « doit avoir », car le curé qui le baptisa ne remarque point l'auréole qui couronnait la tête de ce poupon. S'il l'eût deviné, avec quel empressement il eût dépêché un courrier à Grégoire XIII, le pape, Henri III, roi de France, et nous aurions été fixés à une heure près sur un tel événement. Seule la Vierge Marie souriait en voyant ruisseler l'eau et l'huile sainte sur la tête du fils de Bertrand de Maurras, épouse de Jean de Paul. Et maintenant, place à notre héros, Monsieur Vincent Saint-Vincent.
La carrière de Monsieur Vincent commence par un grand détour. Il s'appelle en ce moment Monsieur de Paul. Il a 25 ans, est prêtre depuis 3 ans, étudiant à l'université de Toulouse. Pour payer ses études, il donne des cours à de jeunes élèves, aidés de son domestique Maître Jacques. Il hésite à être un saint, mais Dieu le guette comme un chasseur guette sa proie.
Les écoliers sont déjà partis. Il n'en reste plus. Tu les renvoies trop vite. Demain, tu les garderas une heure de plus.
Ils ne voulaient pas m'obéir.
Mais aussi, tu ne sais pas les tenir. Tantôt, tu te montres d'une mansuétude complice et tantôt d'une sévérité excessive.
C'est mon caractère à moi, peut pas me forcer.
Si tu ne te corriges pas, je me trouverai dans l'obligation de me passer de tes services. Car nous manquons et à la confiance que les parents ont mise en nous et à la justice. Ils nous paient.
Mais c'est votre faute.
Que veux-tu dire?
Ce que je veux dire, que je n'étais pas entré à votre service pour faire le maître d'école. Mais pour nettoyer votre chambre, raccommoder vos habits et tourner votre poêle.
Un homme intelligent doit se plier à toutes les circonstances.
Je suis un homme intelligent. Mais les écoliers disciplinés ne sont pas de circonstances. Ils ne valent pas une poêle ou un chaudron. Un beau chaudron de cuivre où l'on fait rôtir. J'aurai dans la graisse une dinde bien dodue.
La dinde bien dodue. Le grand rêve de Maître Jacques.
Saint homme. Plaisantez. Moquez-vous de votre cuisinier. La dinde. Mais voilà qui vous met en valeur. Quand vos amis ont festoyé, quand l'estomac leur tire comme la peau de tambour, ils chantent alors l'habileté, le savoir-faire, l'intelligence.
L'intelligence.
Oui, parfaitement. L'intelligence du maître que, dispensateur de plaisir surhumain. Mais pour cette gloire, je vendrai tous les écoliers de France et de Gascogne.
Mon pauvre maître Jacques, tu parles comme Gargantois.
Quand vous serez évêque, monsieur, vous mépriserez moins votre humble domestique.
Qui te parle d'évêché?
Moi tout seul, avec mon bonnet.
Eh bien, tu diras à ton bonnet qu'il se trompe.
Et votre héritage?
Tais-toi, j'y renoncerai sans doute.
Hein? Qu'osez-vous dire y renoncer? Mais voyons, monsieur, si j'habite chez vous, si je n'ai pas rendu mon tablier à vos élèves, si je vous sers sans le moindre salaire, c'est bien parce que je compte sur cet évêché et sur cet héritage qui vous donnera. Je compte bien que vous deviendrez évêque.
Grand bien te fera.
Je mangerai au moins à ma faim.
Quoi, tu jeûnes avec moi?
Ce n'est pas que je jeûne, mais il m'arrive quelquefois d'avoir faim sur ton table.
T'ai-je refusé un morceau de pain?
Du pain, non. Mais le frigo, le pâté, le beurre, tout ça qui forme un petit mamelon par-dessus qui fait chanter la langue. On ne connaît guère chez vous.
Mais ton escarcelle serait-elle vide?
Il me reste 20 liards pour tout potage. Et vous oseriez me refuser cet héritage. Mais par tous les ingénieurs, monsieur, vous devriez être à Marseille et saisir à la gorge ce voleur qui retient indûment cette somme qui devrait vous échoir. Faites cela pour moi, monsieur de Paul, pour que je troque mon bonnet de pédagogue contre la livrée de votre domestique. Mais si vous avez cet argent, vous devient fait évêque.
Rassure-toi sur ce point. Pour être évêque, il me manque science et vertu.
Mais vous les avez, monsieur. C'est la vertu. Vous me supportez depuis 3 ans. De la science, vous en vendriez de terre à bonnet carré. Et vous êtes allé en Espagne pour achever de vous rendre savant. Docteur, doctissimus magister, 25 cius mon maître. Mais qui donc peut nous venir? Un que, un fermandien, un cordelier de malheur, l'héritage qui nous échappe. Désolé, Père Jean, nous n'avons plus un sou dans notre escarcelle.
Vous arrivez à point, Père Jean. Maître Jacques était en train de me damner.
Maître Jacques a de la malice, mais n'est point un esprit infernal.
Vous le connaissez mal. C'est le démon de la richesse et de la bonne chair.
De la bonne chair, avec des rames à tous les pas.
Alors, coupez-lui la langue et les oreilles. La richesse et la bonne chair, les deux grandes plaies de la chrétienté.
Saint homme, plaisantez. Et nourrissez-vous donc d'amour de Dieu, messieurs les moines, messieurs les pédagogues. On verra bien, mon bon père, si pour vivre, il suffit d'être un vanupier et de mettre son corps dans un sac.
Je vous ai fâché, maître Jacques. Mais quelle discussion vous met donc aux prises avec votre maître?
Il y a que mon maître refuse de servir Dieu et l'Église en envoyant un évêché par-dessus les moulins.
On vous propose un évêché et vous refusez?
Mais non, mais non.
Oui, oui, il refuse comme cela. Il ne veut pas que je devienne le domestique d'un évêque.
Ne l'écoutez pas. C'est lui qui a jeté son bonnet par-dessus les moulins.
Oui, il est là, mon bonnet sur ma tête.
En deux mots, voici l'affaire. Et c'est justement pour connaître votre avis à ce sujet que je vous ai mandé...
Demandez conseil à un frère mendiant. Mais c'est demander la route de Paris à un aveugle, c'est exiger d'un boiteux qu'il marche ou pas, c'est envoyer un chien à la pêche. Mais quand serez-vous raisonnable, monsieur?
Maître Jacques, va préparer le souper. Et pour ce soir, je t'autorise à mettre du beurre dans les raves.
Il n'y a plus de beurre.
Tu en achèteras.
On me donne mon congé. On me renvoie à la cuisine, j'obéis. Mais mon bon père, si vous lui voulez se l'évêcher, je fais vœu de vous... De vous pendre avec votre corde de cordelier.
Père Jean, depuis de nombreux mois, vous avez la bonté de guider ma conscience. Une question d'argent me préoccupe. C'est une affaire de peu, mais qui semble mettre en cause toute ma vie spirituelle.
Il n'y a pas de chose minime, en effet, pour l'amour divin.
Une honnête vieille personne, en mourant, me lègue 400 écus. Heureux événement, cette somme me permettrait de mettre le dette. Mais par malheur, l'argent se trouve en créance chez un mauvais drôle qui, pour n'être pas contraint de rembourser, a pris le coche pour Marseille. Je dois donc, si j'accepte cet héritage, courir à Marseille pour faire rendre gorge aux récalcitrants. La perspective d'un procès ne me sourit guère.
Est-ce l'unique raison qui vous fait hésiter?
Je pense à l'Évangile. Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as.
Je vous retrouve, monsieur de Paul.
Je ne voudrais pas déplaire à Jésus-Christ.
Et vous comptez sur moi pour vous rassurer et vous autoriser à ne pas suivre Jésus sur ce point?
Vous devinez juste, oui, j'ai peur de l'avenir. Je crains de manquer à la prudence.
La raison a si peur de la folie de la croix.
Mon père, vous me jetez dans l'inquiétude. Je sens mon âme écartelée entre deux devoirs. L'amour de Dieu qui me presse avec douceur et l'amour de mes frères, la honte de me montrer ingrat. Mon père a vendu sa paire de bœufs pour payer mes études à l'université. Ce geste, ce beau geste, comme il m'est allé au cœur. Je me sentirais déshonoré si je n'essayais pas de leur en être reconnaissant. Le moyen de tout concilier. Mon père, je ne serais pas un mauvais prêtre si je dis à Dieu,
Plus tard, je ne vous résisterai pas.
Monsieur de Paul, le bon Dieu saura vous rattraper si vous lui tournez le dos. Il ne vous ménagera pas.
Monsieur de Paul et le père Jean, par la tête de Valombe, se peuvent-ils mitonner dans leurs pieux entretiens? Un corps à corps contre l'hérésie? Une campagne contre le diable? Touchez mon épée, messieurs, elle vous appartient.
L'épée de monsieur de Lursac, elle a été inventée par le diable pour la damnation des gentilshommes. Gardez-la dans votre fourreau.
Tout bon, mon père, je me tiens à quatre pour ne pas vous traverser le corps. Voyez-vous ce moine de malheur? Il fait ses patenôtres, les yeux au ciel. Il croit que cela suffit pour faire reculer les ennemis de Dieu. Mais où seriez-vous, messieurs, si nous ne dégainions pour protéger vos robes de moine?
Une mauvaise nouvelle, monsieur Jursac. Le père Jean me dissuade d'aller à Marseille.
Et pourquoi donc? Il craint les voleurs? Rassurez-vous, mon père, j'accompagne monsieur de Paul. Il n'est pas né le truand qui me fera tomber l'épée des mains.
Ce n'est pas la raison.
Et quelle raison il peut bien trouver, ce saint homme?
Il ne faut pas que je m'enrichisse.
Avec 400 écus, miséricorde, la fortune du roi Midas. 400 écus, mais il radote le frère mendiant. 400 écus, mais ce fabuleux trésor tiendrait 10 fois dans votre capule.
C'est trop, Satana. Retire-toi, Satan. Tes paroles sont envenimées par le fiel de Maxime du Monde.
Maxime du Monde, je vous en donnerai des Maximes du Monde. J'écoute la voix de la sagesse. Et n'avez-vous pas lu dans l'Évangile qu'à part les frères mendiants, les hommes devaient vivre avec de l'argent? Le maître recommande de faire le monde.
Et peu cher pour faire le monde, il faut de l'argent.
Et sans cela, vous ne seriez pas un frère mendiant. Remerciez Dieu qu'il ait mis sur terre les gens sensés pour comprendre nos saints livres. Bonne mère, j'ai bien fait d'avoir Réberata. Vous étiez gaillardement en train de torturer ce bon monsieur de Paul, bourreau que vous êtes, albigeois mal converti.
Père Jacques, vous êtes un bon saint homme. Mais retournez dans votre couvain.
Et vous, monsieur de Paul, nous sautons dans le coche ce soir en direction de Marseille et de 400 écus.
Bravo! Ah, voilà qui a parlé!
Maître Jacques, à ta cuisine.
J'y suis, j'y vais, mais voilà qui a parlé, et pas à mon bonnet.
Vous ne dites mot, monsieur de Paul.
J'avoue ne pouvoir me décider dans un sens ou dans l'autre.
Dieu vous inspirera.
C'est une bonne idée, père Jean. La lumière éclaircit la route de Marseille. C'est la raison qui éclaire. Votre route à vous, père Jean, c'est la route de la chimère.
C'est la route des pauvres. Le chemin de l'amour. Vous y viendrez, monsieur de Paul. Et vous aussi, monsieur de Lursac, quand vous aurez bien expérimenté que le monde ne vaut pas un denier. Au revoir, mes amis.
Maître Jacques, préférez les bagages et point de cocher, nous voici sur la route.
Enfin, mon maître, vous voilà raisonnable.
Et laissez-moi seul prendre mes responsabilités.
Vous écouterez la voix du bon sens. Et si Dieu nous a mis sur la terre, c'est pour avoir les pieds dessus.
Et pas sur la lune, monsieur le cordelier.
Je vous attendrai. Ce voyage sera un bon et pieux voyage en votre compagnie.
Les deux pieds sur la terre. Mon père était un bon chrétien. Et il comptait les écus pour élever sa famille, les pieds sur la terre. Et les frères et les sœurs doivent se tenir comme les 5 doigts de la main. La paire de bœufs, il creusait la terre pauvre et la retournait patiemment comme des personnes qui méditent. Les voisins les venaient emprunter pour leur labour. « Ce sont les bœufs de Vincent !» disait mon père. Et cela signifiait « Ne les abîmez pas !» Les bœufs de Vincent. Ils étaient contents qu'ils fussent à moi. Et Gagnon, mon aîné, leur donnait un peu plus de maïs dans la grange. Et Marie et Claudine, en les regardant, pensaient à moi. Et Bernard, et Jean et mes cadets. Et le père, un jour, les lia pour la foire. Tous se rassemblèrent devant la porte pour leur dire adieu en caressant leur poitrail. les feux de Vincent s'en allaient. Et le père, le soir, ouvrit sa vieille bourse et dans les mains m'en versa les écus. Tous me contemplaient. Mère pleurait de joie. Et je fis le tour de la maison pour embrasser maman Bertrande, Marie, Gagnon, Claudine, Bernard et Jean. Et mon père, le dernier, me reçut dans ses bras. Tu nous feras honneur, Vincent. C'est tout. Lui aussi.
Le passé de la terre hollandaise, comme il le saisit en plein cœur, il est là, devant les cieux de sa mémoire. Il parle, il la grippe à travers toute son âme. Il n'est plus le prêtre de Toulouse. 12 années se passent. Il redevient le petit berger, le petit Vincent de Paul. Midi. La famille se rassemble autour de la table. Le père, la mère, les frères et les sœurs, dans la grande salle commune de la ferme. Bonjour, bonjour, toute la sainte famille de Paul. Une fois enfin, je rencontre la famille entière. Pas une exception. Même Gagnon, même Marie. C'est extraordinaire.
On ne chôme pas à la ferme. L'argent n'est pas toujours là, mais le travail réclame toujours.
Et vous ne lui tournez jamais le dos. Allons, c'est bien, c'est bien.
Nous sommes bien contents de vous recevoir, monsieur le curé. Mais il faudra excuser le repas, on n'était pas prévenus.
C'était uniquement pour vous empêcher d'y voler un canard.
Faites pas attention, monsieur le curé, et asseyez-vous à ma droite. Il n'y a pas que des canards dans une ferme. Plaît pas, ça complique toujours l'existence.
Vous voyez rien, vous les hommes. Monsieur le curé, en rentrant, dira à la bonne ce qu'il a mangé chez nous. Et sa bonne le dira à la mère Foucard, qui le répétera tout le village. Monsieur le curé, chez les deux Paul, il n'a mangé que de la soupe et du millet. Et on croira que je vous ai manqué de respect.
Qu'allez-vous chercher là, mère Bertrand? D'abord, je ne souffle mes mots à ma bonne. Et puis, m'est avis que je sens le fumet d'un morceau de petit salé qui va mettre à l'abri votre réputation. Ah, mes bons amis, je suis ce soir le plus heureux des curés de France et de Navarre. Vincent, où il est parti encore? Laissez-le, mon ami. Il a préféré ne pas assister à notre conversation. Au début, vous n'avez rien deviné, mère Bertrand. Eh bien, savez-vous ce qui me rend le plus heureux des curés?
Parlez, monsieur le curé.
C'est votre Vincent qui me fait le plus heureux des curés. Le bon Dieu vous a donné 6 enfants. Mais il s'est réservé l'un d'entre eux.
Mon Dieu, Vincent, prêtre. Un prêtre comme vous, monsieur le curé.
Et bien meilleur que moi, mère Bertrand.
Vous ne répondez pas, père de Paul. Alors, vraiment, ce petit, vous croyez qu'il montera un jour à l'autel? Aussi sûr que vous me voyez, mes bons amis.
Et un prêtre, ça ne se fait pas en gardant les moutons.
Faut être savant. Vincent ne pêche pas du côté de l'intelligence.
Les arbres et les herbes, il connaît tout.
Il aime les animaux, les brebis, les agneaux et les chevaux.
Les offrandes de dimanche, monsieur le curé, il les répète par cœur. Il y a des écoles à suivre. Qui les paiera?
Ah, j'ai pensé à un riche bienfaiteur, monsieur de Comène.
Non, monsieur le curé, les deux Paul ne sont pas des mendiants. On travaillera tous un peu plus.
La bourse est vide, mon ami.
On vendra notre frère de peu. Et tu refuses pas, Gagnon.
Sûr, on défrichera la lande de cassou. On sèmera un peu plus de maïs.
Je lui tisserai des chemises.
Il nous revaudra ça quand il sera arrivé.
Il sera notre prêtre. À
vous acceptez donc, père de Paul.
Monsieur le curé, je déclare, cet honneur, je ne le méritais pas. Un homme, tout homme est un pécheur. Son cœur est plein de mauvaises terres et de mauvaises semences. C'est la justice de Dieu qu'il doit redouter. À Vincent, à moi, à sa mère, à tous les miens, il fait miséricorde. J'ai pas à refuser. J'ai pas à accepter. J'ai qu'à dire merci de l'honneur qu'il nous fait. Ce merci, je le dirai avec toi, la mère. Car c'est toi qui lui as appris à se bien comporter.
Lui a appris à se bien comporter avec Dieu. Je le dirai avec vous, mes enfants. À cause de votre frère, vous serez meilleurs chrétiens. N'est-ce pas ton avis, femme? À toi la parole.
N'est-ce pas ce que je veux dire? J'ai l'âme toute tremblée, mais c'est de joie, et je pense que ma joie ressemble à celle de la Sainte Vierge. Quand l'ange lui annonça que serait la mère de notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous avez dit tous les deux les paroles qu'il fallait. Maintenant, Bernard, va chercher Vincent. Il s'inquiète au fond de la crue.
Mon Dieu, mon petit Vincent. Mon petit Vincent. Il n'a jamais été comme les autres, monsieur le curé. Il avait une âme de fleur. J'aurais pas y touché. Il priait mieux que nous, les filles.
Le voilà! Il ne m'a pas entendu venir. Il récitait des patenôtres à genoux auprès du poulailler.
Vincent, c'est vrai ce que nous a dit monsieur le curé. Tu as dans ton idée d'être prêtre?
Oui, mon père. Il te va. Mon petit Vincent, mon petit prêtre, embrasse-toi.
Les bœufs de Vincent, les moutons sous la garde du petit frère, et le père s'en est retourné vers Dieu, et maman Bertrande garde toujours ma place là-bas, à la ferme, au bout de la table. Je suis leur frère, ils ne mangent pas à leur faim. Je suis le fils de maman Bertrande, Vincent de Paul, au village de Pouille, dans le grand pays des Landes.
Maintenant, hissez le vent, votre santé touche la toile. Dans des raides comme le reclairie et la grande voile. Voguez joyeux vers les combats, écrasez les pirates.
Eh, mes chers, monsieur de Lussac, vous n'êtes pas le Mistral.
Eh non, mais je suis peut-être la Tramontane.
La Tramontane, un petit vent d'Italie, un souffle de Vierge, tandis que le Mistral, un vent de France, le souffle de Jéhovah. Et je voulais dire, il court plus vite que vous, le Mistral. 2 heures que je me morfonds.
Vous exagérez, 10 minutes que vous m'attendez, pas plus.
Apprenez que pour un matelot, 10 minutes d'attente, ça fait 10 minutes. Mais pour un capitaine, 10 minutes, ça fait 2 heures.
Eh, on ne défile pas un homme comme monsieur le Paul en lui chantant une chanson. Il faut s'agiter de la langue.
Et je croyais que tu te confessais à ton petit curé.
Erreur, mon cher, c'est le curé qui se confessait à moi.
Tu étais dans le confessionnal à la place du curé. Et le curé à la place du pêcheur.
Mais farceur, elle est bien bonne.
Et tu lui as donné l'absolution?
Tout juste, avec une pénitence énorme comme ton bateau.
Regardez-moi cet homme de Toulouse qui veut blaguer comme un Marseillais.
Mais dis-moi, on pourrait le connaître, le péché de ton petit curé?
Mais tu n'y comprendrais rien. Enfin, écoute, je vais t'expliquer. Mon petit curé, il s'accusait d'avoir fait rendre gorge à un voleur qui lui devait 400 écus.
Et il laissa les 400 écus?
Doucement, capitaine, ils ne sont pas pour toi, les 400 écus.
Et que veux-tu que je fasse de 400 écus? Ils ne paieront pas la toile de misaine de mon bateau.
Mais dis-moi, ton petit curé, pourquoi il a eu pitié du voleur? Il l'a fait pendre?
Même pas. Il l'a jeté en prison et puis voilà, il en a du remords. Il croit que c'est mal.
Par tous les diables, il n'est pas ordinaire, ton petit curé.
C'est un saint du bon Dieu, il pleure sur un brigand.
Va me le chercher que je l'embarque tout de suite pour la
vol. Il viendra. Laisse-lui le temps d'achever son bréviaire. Comme pénitence, je lui ai donné l'ordre d'embarquer sur ton bateau.
Et dis donc, je t'en passerai des pénitences. Embarquer sur la belle Provençale n'est pas une pénitence. Tu m'entends? Le roi lui-même n'a jamais eu cet honneur.
Et Trundaler, une pénitence.
Va me le chercher que je le rassure.
Vogue et joyeux vers les combats, écraser les pirates.
Hé, dis donc, capitaine, il y a des pirates dans ta chasson. Y en aurait-il aussi sur la mer?
S'il y en a, morbleu, autant que de requins.
Mais garde le front serein.
J'ai les canons et les pirates, quand ils aperçoivent la belle Provençale, ils se sabordent ou ils hissent le grand foc en direction de Tunis.
Ah, voilà notre homme. Pour un petit saint, il a bonne mine. Avec du rouge, du bon drap rouge sur les épaules, il ferait un cardinal.
Hé, monsieur le cardinal, par ici, la belle Provençale. Le capitaine, à vos ordres.
Je suis heureux de monter en bateau, capitaine. C'est la première fois.
La première fois? Et sur la belle Provençale? Vous avez toutes les chances, monsieur.
Dites-moi, nous gagnons ainsi 2 jours de route à passer par Narbonne.
3. 3 bonjours quand le vent il se met de la partie.
À moins que...
Et qu'est-ce que ça veut dire, à moins que...
Ça veut dire peut-être un petit détour vers Tunis.
Et qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à Tunis?
Le capitaine, il ne fait que chanter les exploits des pirates.
Et pirates toi-même? Vois-tu vu que j'avais peur des pirates? Les pirates, ils peuvent venir. La belle Provençale les attend de pied ferme dans le vent. Marraine de Toulouse.
Ils viendraient aussi près des côtes?
Bonne mère, ils nous narguent jusque sur nos rivages. C'est une honte pour Marseille.
Tais-toi, tais-toi et embarque. Embarque, l'ami, et cinglons sur Tunis. Et tu verras les pirates leur galopade devant les Marseillais.
Le sort en est jeté, monsieur de Paul. Le capitaine, il cingle sur Tunis pour nous vendre aux pirates.
Et si cela arrivait par tous les diables, je ne te vendrais pas cher, hein? L'homme de Toulouse, pirate de la Garonne.
Thank you.
cher à marchand. Mais c'est toi le ferrailleur. Tu te battais comme un mamelouk.
J'ai envoyé deux hommes au fond de la mer.
Ils méritent d'être pendus.
Capitaine que tu es, si tu avais osé descendre le premier sur le pont, je t'aurais expédié au paradis d'Allah.
Par Allah, que dis-tu, fils de chien? De craindre, moi, aucun Français n'est ressorti vivant d'un combat avec Mustapha.
C'est facile quand ils sont enchaînés.
Fanfaron, tu vas payer ton insolence. Saisissez ce chacal et suspendez-le à la vergue du grand mât. Là-haut, tu pourras envoyer tout à loisir.
Ami, ne laisse pas ta colère emporter ta raison. Sa mort ne te rendra pas les matelots perdus.
Qui ose me contredire?
Moi, car je sais que tu es un ami de la sagesse. Regarde, il a du costume. C'est un gentilhomme comme toi. Et comme toi, il est fier. Sa rançon te rapportera, et pas sa corde de pendu.
Par Allah, par Allah! Je devrais! Mais qui es-tu? Toi qui parles comme le prophète! Il faut que je t'écoute!
Un homme comme les autres!
Quel est ton métier?
Je suis prêtre de Jésus-Christ!
Un muezzin alors?
Oui, un muezzin qui connaît le Coran et bien autre chose encore!
Par Allah! Tu m'intéresses, mon ami! À Tunis! Tu te feras disciple de Mahomet. Et si tu es docile, tu deviendras un personnage.
Tu te trompes.
Ah, pour ça, tu te trompes.
Un prêtre ne renie pas son maître.
Tant pis, tu deviendras le dernier des esclaves. Je te vendrai au premier venu.
Que m'importe, je suis dans les mains du Seigneur et non pas dans les tiennes.
Et dans les mains de qui es-tu? Si tu étais dans les mains de Dieu, tu n'y es plus. Allah t'a mis dans les miennes.
Il m'en arrachera à son heure.
Hé, tu es drôle. Tu parles comme un croyant. Ni insolent, ni flatteur. Tu feras un bon esclave.
Jusqu'à ce qu'il ouvre la bouche pour se plaindre. Par Mahomet, je n'ai jamais rencontré un croyant plus pieux que cet impie. Je te ferai mourir de faim, brûler de soif, pour que tu avoues que Mahomet est bien le prophète.
Zora, j'ai vu ton petit manège, Zora. Cesse de persécuter mon esclave ou je me fâcherai.
Que mon maître me pardonne. Je vais être la plus
fière de ses sandales.
Tu baises mes sandales, mais je n'ai pas tourné le dos que tu continues ta méchanceté. Tu m'agaces. Je devrais te chasser, t'expulser, te bannir à jamais de ma demeure. Et je le ferai, tu m'entends?
Mon maître est le beau cheval en colère.
Et à peine parti, je serai un chameau. Et dans le Coran, tu ne trouveras pas assez d'insultes pour me gratifier. Zora, tu m'obéiras.
Comme le tapis sous tes pieds.
Je me moque du tapis. Je veux que tu m'obéisses. Non pas comme un tapis, mais pour parler ton langage. Comme ma main, comme ma tête.
Je suis ta tête, mon maître. C'est pourquoi je veille avec toi, mon maître. Je veille sur cet esclave français qui rôde comme un chacal sur du cœur.
Il est plus doux qu'un enfant.
C'est cela.
Il ne se plaint jamais.
C'est cela. L'homme qui ne gémit pas de l'infortune est plus redoutable qu'un conquérant.
Tu as peur d'un esclave?
Il y avait une fois, aux portes du paradis, un mendiant. Un mendiant qui venait du pays d'au-delà de la mer. Il était beau. Les filles d'Allah étaient belles. Et il mourait de soif pour prendre les sources d'eau vive. Et une femme est venue, l'a pris par la main et l'a conduit aux fontaines où se désaltèrent les fils et les filles d'Allah.
Eh bien, j'y bois toujours et tu es ma servante.
Oui, mais depuis que cet homme est entré dans ta maison, tu n'entends plus la voix du prophète, tu ne lis plus le livre, tu n'écoutes plus les prières de ta servante.
Tu es injuste, Zora, tu es méchante et menteuse. Je suis juste envers cet esclave. Le Coran le demande.
Le vent n'a pas besoin de souffler fort pour abattre une maison bâtie sur du sable.
Tu veux dire?
Que le vent est mauvais pour toi.
Tu me soupçonneras donc toujours d'être infidèle.
Depuis que cet homme te regarde, tu ne me regardes plus. Tu ne regardes plus ta femme. Tu ne regardes plus le ciel avec les mêmes yeux.
Langue de vipère. Je fais mes prières à Allah. J'observe le Coran. Allah est mon Dieu.
Pourquoi tu as pris à ta femme à chanter les prières de l'esclave?
Un amusement. Tu me défends de me distraire?
Cette chanson est troublante comme certains breuvages. Et ta femme, aveugle que tu es, tu ne vois pas qu'elle écoute les paroles empoisonnées de cet homme.
Tu es jalouse d'Aïcha. Tu ne peux la supporter.
Tu te perds, mon maître. Chasse cet étranger ou tu redeviendras l'esclave. Allah, la terre entière. Les infidèles sont ses esclaves.
Par Mahomet, je te jure.
Ne jure pas, mon maître. Je te croirai le jour où tu reconduiras ton esclave sur le marché, et non ta vieille Zora.
Et si je le convertissais à Mahomet, me croirais-tu?
On ne peut faire d'un agneau un cheval, d'un nuage un soleil.
Où est l'esclave français?
C'est un lièvre qui fuit le travail.
Il est le seul esclave qui travaille bien en Tunis.
Il peut s'instruire l'homme qui écoute.
Tu es mauvaise, Zora. Tu es une vieille mue, une vieille punaise, une vieille outarde.
Je ne sais pas raconter de belles histoires.
C'est vrai, tu l'as fait.
Je ne sais pas chanter de belles chansons.
Tu es trop bête.
Je suis une vieille mule, une vieille punaise, une vieille
outarde. Tu ne sais que crier et bavarder comme une outarde.
Ma maîtresse a raison.
Chasse-la, je ne veux plus la voir. Elle me surveille, elle me déteint. C'est elle qui commande ici. Enferme-la dans la maison et qu'elle ne sorte plus ou je serai folle. Je me tuerai.
Va, Zora, laisse-nous.
Je te baisse les mains, mon maître. Et je baisse le cœur d'Aïcha,
vieille chef. Et lèche la main pour la mort. Attache-la à un pieu et j'aurai la paix. Dès que je remue un bras, je suis infidèle.
Je te défends, Aïcha, de parler à cet étranger.
Hein?
J'ai dit.
Et pourquoi, mon maître?
Parce que je suis ton maître.
Bon, tu es mon maître, mais je suis ton épouse. Et tu dois m'expliquer tes secrets. C'est écrit.
Parce que cet esclave n'est pas de ta race, tu m'entends?
Il est de la tienne, cependant.
C'est un impie, il ne croit pas à Mahomet.
Bon, écoute. Tu es de Nice, et moi je suis grec de Chypre, et Mahomet n'est pas de notre pays.
Que dis-tu, Aïcha? Que dis-tu? Tu es fille d'Allah, fille de Mahomet, comme moi, comme tous les hommes libres d'ici.
Tant que tu voudras, mais je n'ai pas la même peau, et je n'aime pas la peau de ces gens-là. Lève-toi la malédiction de Mahomet.
Tais-toi, Aïcha, je t'en donne de te taire. Mahomet t'a affranchi. Tu es libre, tu n'étais qu'une enfant quand tu es arrivée ici, et tu es fille d'Allah.
Je n'étais qu'une enfant, oui, mais je n'ai rien oublié. Ni le prêtre à longue barbe blanche qui montait à l'autel et criait dans la chair de son église. Je me souviens qu'un jour, il m'a caressé le front en me disant, petite fille, il faut être bien sage. J'avais 8 ans, alors Mahomet, tu comprends, il est venu trop tard.
Tu rêves, Aïcha, tu rêves. La religion de l'esclave est triste, si tu savais.
Il n'est pas triste, lui. Tes yeux sont aussi clairs et aussi doux qu'une lampe la nuit.
Sa religion défend d'aimer des femmes comme toi. Il ne t'aime pas, il te méprise parce que tu es une païenne.
Ce n'est pas vrai. Tu ne connais ni ton esclave ni sa religion.
Je la connais mieux que tu ne penses.
Pourquoi ne me l'as-tu pas appris?
Écoute, avant d'être pris par les pirates, j'ai été ce qu'on appelle là-bas un moine. J'étudiais pour devenir prêtre. Un prêtre comme Vincent. Je m'appelais Guillaume Gauthier. J'étais novice chez des religieux qu'on appelait les cordeliers.
Et tu as renié ta religion?
Cervelle de femme, cervelle d'oiseau, c'est pour n'être plus esclave. C'est pour épouser une femme comme toi. Allah m'a libéré comme il t'a libéré.
Et tu ne crois pas d'Allah?
La preuve que j'y crois, c'est que je vais convertir cet esclave. Et tu verras qui sera le plus fort, de lui ou de moi, de Mahomet ou...
Tu seras l'esclave le plus fort.
Quelle estime as-tu pour moi, ton mari?
Une grande estime pour le mari, mais une toute petite pour le disciple de Mahomet.
Petite nulle entêtée, va-t'en, va-t'en, je te chasse de ma maison. Si tu me parles encore de l'esclave, tu en iras au diable chez les Turcs. Maudit soit le jour où je m'avisais d'acheter ce Vincent.
Monseigneur, je baise le bas de ta tunique, et je baiserai la poussière de tes sandales le jour où tu auras fait de cet esclave un disciple de Mahomet.
Au diable soit et la femme et l'islam et l'univers et toutes les religions. Mais je ne peux tout de même pas me laisser bafouer par ce misérable esclave. Le passé. Guillaume Gauthier est mort. Il est mort, tu m'entends? Tu mets le pied dessus. Tu l'écrases comme un serpent. Il ne peut revenir. Il ne peut revivre. Et je vais l'abolir dans la conversion de cet homme à Mahomet. Devrais-je y mettre un ange, je l'emporterai. Et j'en ferai un chien musulman. Comme moi.
J'ai convoité les trésors de l'homme riche et je n'ai trouvé que la solitude de l'esclavage. Les cœurs ici sont vides, les maisons sont vides. C'est la terre aride de l'exil. Sur ma tête, ce grand ciel inhumain, ce soleil qui me cuit avec mon péché. Sous mes pas, ce sol dur que je retourne et qui me brûle les membres. Vous, du moins, Seigneur, ne vous retirez pas de moi comme l'eau s'est retirée de cette terre infidèle. Ne manquez pas à ce pauvre pécheur. La voix de mon pays, les landes parfumées, bouille, la dour limpide comme le miroir, fraîche au palais comme une cerise. Les moutons fidèles qui s'y désaltèrent dans l'air matinal. À la ferme, maman Bertrande, Marie Gagnon, Claudine, Bernard et Jean, parle ta voix basse de moi, qui ne suis plus du pays des hommes. Et dans le soleil du matin, la ferme, ramassée comme une seule personne, dans un même élan, travaille et m'attend.
Je prendrai ta défense contre Zora. Je la ferai chasser de la maison.
Il ne faut pas être injuste parce que les autres sont injustes.
Mais c'est tout à fait juste. Quel fait à toi tes méchancetés et à moi tes perfidies. C'est une chèvre. Tu es beau comme un cheval. Tu es plus beau que les hommes d'ici. Tu me rappelles les hommes de mon village.
Tous les hommes se ressemblent, Aïcha.
Non, tu n'es pas comme les gens d'ici. Tes yeux viennent d'ailleurs. Pour te prouver mon amitié, je vais te confier un secret.
Garde ton secret s'il est mauvais.
Il est bon, et je veux que tu l'utilises pour convertir mon mari.
Mais où veux-tu en venir?
Tu ne connais pas mon mari?
Si, je pense.
Tu connais son pays, sa race, sa religion?
Oui.
Il est cependant une chose que tu ignores. Il était comme toi, un homme très pieux. Il était étudiant à Nice et des savants. Il apprenait des livres pour devenir prêtre. Le nom des religieux chez qui il était, je l'ai retenu. Les Cordeliers, c'est ça.
Mon Dieu!
Tu vois, mon secret avait de l'importance.
Mais comment le sais-tu?
C'est lui qui me l'a révélé. Je puis même te dire son nom. Il s'appelait Guillaume Gauthier.
Et tu crois qu'il a renié notre Seigneur Jésus-Christ?
Bien sûr que non. Une femme devine beaucoup de choses. Il ne veut plus m'apprendre à chanter des prières. Je ne sais pas pourquoi. C'est qu'il a du remords.
Comme il doit être malheureux.
Il se garde bien de l'avouer.
L'impie roumi qui parle à la femme du maire.
Non, va-t'en. Je viens de méchante femme. Va-t'en, va-t'en, mais c'est des têtes.
Je te salue, maîtresse.
Qu'elle la me maudisse. Qu'elle la se livre à tous ses démons.
Et on verra bien qui de nous de l'emportera.
Il ne faut jamais maudire, Aïcha.
Si, quand il s'agit d'une ennemie.
Tu es baptisée, voyons, Aïcha.
Mais je ne connais pas ma religion. Mais vite, parle-moi de cette religion. Avant le retour de mon mari, que sera pour avertir.
Oui, mais justement, ton mari te punira.
C'est moi qui ferai souffrir, s'il veut me punir. Sais-tu que ton chant m'a bouleversée? C'est comme si une gazelle t'avait soudain traversé le cœur. Parle-moi de cette femme que tu punis.
Ah, rien n'est plus agréable à mon cœur. Elle s'appelait Marie, de race juive, la race jumelle des Arabes. Née de famille royale, elle vivait pauvre des biens d'ici-bas. Et elle était la plus belle, la plus pure, la plus exquise de toutes les femmes.
Et pourquoi était-elle la plus belle?
Parce que Dieu avait choisi son corps pour être le tabernacle, la tente, où naîtrait son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ.
Ô femme, choisie entre toutes les femmes.
Mère bénie entre toutes les mères.
J'aurais voulu être cette mère.
Une seule créature a possédé ce privilège.
Et c'est ta gloire que tu chantais dans cette langue étrange qui n'est ni de ton pays ni du mien.
Oui, c'est le salut à la reine dans la langue de toute la chrétienté. Je vous salue, Marie, reine, mère de miséricorde.
Écoute, je sais, Marie.
Des chansons. Travaille ou ce soir tu te passeras de manger.
Que ton cœur reste sans colère. C'est moi qui ai décidé d'enfreindre le trésor et de lui porter secours. Il tombait d'épuisement.
Et pour lui donner du cœur, ma femme lui chante des chansons. Il y a de la chance pour un esclave. Rentre. Je t'interdis désormais de lui parler en dehors de ma présence.
Nous verrons bien demain si tu me le défendras encore.
Allah interdit d'adresser la parole à l'infidèle, et sur toi il me donne tout pouvoir. Prends.
Je baisse tes sandales, mon maître, et celle du prophète.
Tu crois encore à tes refrains? Depuis longtemps, je les ai ensevelis dans les oubliettes. Un air qui s'accroche encore dans un coin poussiéreux de la mémoire. Le passé. La peau d'une orange. L'orange a disparu. Ou plutôt... Voilà l'orange. Disciple de Mahomet ou disciple de Jésus-Christ? La grande affaire, c'est de vivre. Et demeurer esclave, ce n'est pas vivre. Bientôt, tu me comprendras. Tu me blâmes. Tu es jeune. Mais pourquoi te sacrifier à une chose mal assurée? Oui, pourquoi? Sur cette chienne de terre, ce qui est certain, c'est le bonheur, et je l'ai choisi. Ah, imbécile. Ta tête est dure comme un caillou, mais réfléchis. Mahomet m'a donné son riche théma. Cette ferme-là, sous nos pas. Et cette femme délicieuse. Et mon temps, je le passe à rêver auprès des sources d'eau vive. Luxe appréciable sur cette croûte de terre mangée de soleil. Et je suis heureux, en t'as-tu? Je suis le plus heureux des hommes. Je te répète que je suis heureux. Je suis heureux, te dis-je.
Pour être heureux, son bonheur, il ne faut pas avoir à le justifier.
Mais si je t'en parle, c'est pour te convaincre, pour te sauver.
Pour vous convaincre, vous, le premier. Et vous n'y réussissez pas.
Tu t'illusionnes. Tu me vois encore à travers tes livres. Tu crois au remords. J'ai balayé la maison. Nettoyer les toiles d'araignée encore accrochées au coin d'un vieux mur. Abolir les anciennes amours.
Même ton pays, même ta race, même ta mère. Et dans ton cœur, tu ne sens jamais un point douloureux.
Vivre, mon garçon, voilà la réalité, la seule. Marche sur le passé. Laisse par terre les fleurs fanées. Décharge les paquets de souvenirs. Un coup d'épaule, un bonjour à Mahomet, te voilà libre. Tête dure. Lazare dans son sépulcre, détache tes bandelettes. Sors, sors dehors, respire que diable. Il y a de l'air ici, et du plaisir. Imbécile. J'ai fait craquer mes chaînes et j'ai été libéré. Et maître d'esclaves, ton maître.
Guillaume Gauthier, ancien novice au couvent des Corps de Dieu de Nice. Tu mens ! C'est moi qui suis libre.
Qui te l'a dit ? Qui t'a révélé ma vie ?
Tu es baptisé, et ton front est marqué de ce caractère qui ne s'efface pas. Et ton âme, c'est en vain que tu la jettes aux bêtes de l'islam, elles ne la détruisent pas. Tu es leur esclave, esclave de ton plaisir, à genoux devant Mahomet.
Tais-toi, misérable, tu parles comme un fou, comme un moine qui...
Mes paroles te frappent en plein cœur, et tu ne peux les supporter parce qu'elles rouvrent une blessure mal guérie. Guillaume Gauthier, tu crois toujours en Jésus-Christ.
Chien chrétien, qui perd bien mon esclave, entendu, je te couperai la langue.
Guillaume Gauthier, je suis ton frère, et nous avons le même maître. Ah, il ne t'a pas renié. Il te regarde comme il a regardé Pierre, navré.
Mais qui es-tu pour me parler ainsi?
Pour toi, pour qui m'as-tu vendu? Ô toi, mon ami, pour une femme, pour un faux prophète, pour Mahomet.
Je n'avais plus la foi, je n'ai rien renié. J'ai été logique, simplement logique envers moi et envers les autres.
Sa voix, elle te cherche, elle t'atteint, elle te poursuit au milieu de tes collines, à travers tes fontaines, cette voix qui murmure. Mon ami, est-ce bien vrai que tu m'as délaissé?
Tu n'as pas le droit de me parler ainsi. Tu n'as pas le droit de saccager ma vie avec des souvenirs qui ne sont pas la foi. Mais des regrets, quelques larmes du passé, pas plus.
quelques larmes du passé, des cris du passé qui ne se tairont jamais. Mon frère, si je te parle ainsi, c'est parce que je t'aime. Je suis le seul à t'aimer ici. Ces maisons, cette terre, ces traces ne sont pas les tiennes. Exilé, le bonheur, où le prendras-tu? Oui, c'est l'orange dont tu me parlais tout à l'heure et qui s'écrase dans tes doigts parce qu'elle est pourrie. Dieu est bon, mon frère. Il faut nous arracher tous deux à l'islam, tous deux avec ta femme, que nous convertirons.
Relève-toi, je t'en supplie.
Pas avant que tu ne m'aies promis de quitter cette terre infidèle. La Sainte Vierge, ils ne l'ont pas, ces chants.
Mais le moyen de fuir, cette mer à traverser, et leur police, et ces femmes, et moi, moi qui ne veux pas me convertir.
Mais là-bas, c'est ton pays, c'est ta race, c'est ta mère, et là-bas, c'est Notre-Dame. Et notre Seigneur Jésus. Viens, même sur une coquille de noix, nous traverserons la mer.